si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute Morgen, grüße Ohrläpple von ihrem kleinsten Sender Judaica. Das Wetter ist so sommerlich dort. Das soll heissen, der Sommer wird kochend heiß. Normal, im Sommer ist es immer warm, gell? Fais-moi une place, ma chronique depuis presque 3 ans. Je ne peux m'empêcher de parler en alsacien, ça m'amuse d'abord de parler en dialecte. Pour moi, ça a le goût de mon enfance et presque de mon biberon, gell? Alors, nouvelle émission, toute fraîche cette semaine. Après les internationaux de Strasbourg, tennis féminin, nous sommes en plein tournoi de Roland-Garros. On voit tous les joueurs, les joueuses, tous sur leur 31, élégants, super pompe, short, raquette, dernier cri. Et à Strasbourg, à Strasbourg, la boyauderie de l'Est, BDE, la famille Chouissa, de père en fils, transformée des boyaux d'animaux. Alors, ça sert à quoi? En voilà une bonne question, Muller. Muller, là. Bonjour, cher invité surprise, Pierre Chouissa. Très heureux de te rencontrer ici, chez nous, dans notre studio.
Eh ben, moi aussi, parce que ça fait 40 ans que je te connais, puis t'as pas changé.
Oh, tu exagères.
T'as toujours le même look extraordinaire.
Colorisé, tu veux colorisé, dire colorisé. Ouais. Alors, derrière la vitre, je te présente Thomas, notre ingé son. Alors, comment tu gazouilles dans ton monde, Pio? Parce qu'on t'appelle Pio, tout le monde te connaît par ton prénom, Pio.
Voilà, c'est Pio.
Qui c'est qui t'a appelé Pio la première fois?
C'est ma nourrice.
C'est pas vrai?
Ma nourrice au Maroc qui m'a appelé Pio.
Et tu comprenais quand elle disait Pio, 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 Pio?
Pio, 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 gazouiller, gazouiller.
Ah ben voilà, on parlait de gazouiller, tu vois. On se connaît, c'est vrai, depuis belle lurette. Ça fait 3 générations des Chouissa qui travaillent dans la boyauderie, hein, c'est ça?
Voilà, mon grand-père travaillait déjà au Maroc dans la boyauderie, puis mon père, et ensuite on est arrivé à Strasbourg en 67, et mon père a monté une usine de boyaux. Alors,
mais dis-moi, ton père avait donc, c'est lui qui était le fondateur de BDE, hein, les boyauderies de l'Est, hein, c'est lui qui avait,
oui, tout à
vous
fait.
Étiez 80 employés dans cette boîte.
Exactement, quand on fabriquait des boyaux.
Mais ça sert à quoi les boyaux? Raconte-moi un peu.
Alors ça sert à, c'est un produit naturel, hein, c'est comme de la peau.
Et ça vient d'où ça?
Ça vient, tu les ramasses dans les abattoirs, tu les coupes, tu les laves.
Ah ouais.
Et ensuite tu en fais des instruments de musique anciens. Tu en fais de la chirurgie, des boyaux de chirurgie.
Attends, on opère avec des boyaux?
Eh bien sûr, avant le synthétique, on opérait qu'avec des boyaux.
Hein, ça veut dire quoi? On fermait des plaies avec
des
boyaux?
Voilà, tu fermes des plaies, puis ça se résorbe.
C'est un à l'intérieur du corps, par exemple, on peut mettre...
Exactement, exactement.
C'était comme un fil à coudre.
Voilà,
alors.
Exactement. Ça servait à opérer.
Et donc, c'est ce que ton père et toi transformaient.
Voilà, et donc il y a aussi, bien sûr... le boyau pour les knacks, hein, en Alsace, par exemple.
Les knackwürstle.
Ou les saucissons. Hein, voilà. Un bon saucisson, c'est pas avec une enveloppe en plastique. Hein, voilà, c'est une enveloppe en boyau.
Et toujours aujourd'hui, on fait ça?
Toujours aujourd'hui.
Ah ouais, okay.
Par contre, la chirurgie, ça a disparu. Les instruments, là aussi, ça a beaucoup disparu. Et donc, après, on s'est orienté vers le boyau de tennis, de badminton, pour le sport, voilà.
D'accord.
ça a été
l'orientation. Là, on va en parler un peu plus tard du tennis, tout ça, mais parle-moi des boyaux, ils viennent de quel animal? Pas d'un chat,
non,
j'imagine.
Non, alors c'est la légende, appelle ça en anglais le catgut, donc le chat, le boyau de chat, mais heureusement, on n'allait pas chasser des chats autour des abattoirs de Strasbourg, d'IKEA, là où il y a IKEA maintenant.
Oui, aujourd'hui,
Non, c'est dans les abattoirs des bœufs. On avait une usine d'ailleurs à Guingamp, parce qu'il y avait beaucoup d'abattoirs en Bretagne.
D'accord. Et donc, mouton, tu dis que ça vient du mouton, des bœufs, c'est ça.
Voilà. Boyau de bœuf.
Boyau de bœuf. Parle-moi un petit peu en chirurgie, tu disais à l'instant, on ne le fait plus en chirurgie, c'est terminé?
Non,
ça.
C'est pratiquement terminé. Ouais. Parce que le synthétique a remplacé le boyau naturel.
D'accord. Et alors donc, une guitare, on pouvait très bien jouer de la guitare avec des boyaux.
Voilà, des violons.
Des vieux instruments du Moyen-Âge aussi.
Voilà.
Déjà de l'Antiquité, on utilisait du boyau.
Exactement.
Pour opérer aussi pour,
oui, tout à fait.
Et comment tu as ces connaissances? Tu l'as lu, ça, quelque part?
C'était évident.
D'accord.
Tu demandes à tous les chirurgiens, qui ont 70 ans, 80 ans, ils ont opéré au départ en boyau.
Ben moi, j'avais une plaie ici à la main, tu vois, J'étais opéré quand j'avais 4-5 ans, mais c'était certainement du boyau.
Exactement.
Et ça tient, tu vois. Bah,
ça a l'air de tenir.
Toute ma vie, ça a tenu, ça. Voilà. Ouais, ouais.
Et bah, avec cette main-là, tu as joué au tennis.
J'ai joué au tennis, effectivement. Ouais, on en parlera un peu plus tard. Écoute, on parle juste à l'instant des cordes d'instruments de musique. On va peut-être se reposer un peu les oreilles, écouter une petite musique qui t'affectionne.
Hein. D'accord.
Mais voir un petit peu de musique, Thomas, s'il te plaît.
Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons.
Quelle belle musique, hein. Il l'a bien adapté, hein. Ouais, c'est super. Tu le connais personnellement, ce chanteur ?
Non, pas personnellement, mais je l'ai vu plusieurs fois en concert. J'aime beaucoup.
Et tu l'as vu où ? À Sainte-Marie-aux-Mines, je crois.
À Sainte-Marie-aux-Mines, oui.
Chez ton ami Rodolphe Burger.
Voilà, ouais. je suis bénévole au festival de Sainte-Marie-aux-Mines.
Ah oui, ok, d'accord. Tu donnes un coup de main,
voilà.
Tu fais des knackwirsch.
Non, je fais des merguez.
Excellent, excellent. Parle-moi un peu d'où tu viens, je sais que tu viens du Maroc. Fais-moi un peu rêver, parle-moi un peu de
Alors,
ta ville
viens,
où t'as
je
grandi.
Alors, je viens de Rabat, ouais. Qui est la ville, la capitale, qui est la ville royale, et j'ai passé 10 ans de mon enfance là-bas. Bah ça correspond à la musique qu'on vient d'entendre.
Bah
c'est l'insouciance.
L'insouciance, exactement.
Voilà. Et
comment c'était sur ton lieu d'école, quand tu allais à l'école à l'instant, le chanteur, il en parlait un petit peu de l'école.
Bah, l'école, c'est pas l'école française. On était beaucoup plus libre.
Plus libre.
Bah beaucoup. Ça bougeait beaucoup plus. Hein. Je suis arrivé moi en France. Quand je suis arrivé en France, je suis allé directement au lycée Kléber. J'avais du mal à rester assis. Hein, donc.
Parce que là-bas, tu es debout
pendant
les cours.
Là-bas, ça bouge beaucoup.
Tu te balades dans les vols. Ouais.
On travaille, mais on travaille plus avec plus de liberté.
Plus de liberté. Et c'était comment là-bas, ton enfance, quand tu te baladais le soir, quand tu jouais avec les copains, t'étais près de la mer?
Alors, on n'habitait pas près de la mer. Par contre, on avait ce qu'on appelle un cabanon. À 20 km de Rabat, 30 km, et on allait dès qu'on était en vacances.
Vous alliez là-bas dans une sorte de cabane
plage,
au bord de
la
mer.
La plage, voilà.
Wow, alors tu pêchais, Ce sont des bons souvenirs.
Des très bons souvenirs.
Ce sont aussi tes racines.
Exactement, de ma famille. Ouais.
De ta famille. Ok, alors adolescent, tu migres vers l'Alsace, vers Strasbourg, et t'avais quel âge là ?
T'avais 11 ans.
T'avais 11 ans.
Voilà.
Et comment ça s'est passé, cette venir à Strasbourg dans le froid, peut-être en hiver ?
Pour mes parents, c'était peut-être plus dur parce qu'ils avaient vraiment leurs racines au Maroc. Pour nous, les adolescents, on s'est adapté rapidement.
Et tu parlais du Kléber tout à l'heure, voilà. C'était la grande industrie, Kléber, non
ouais,
c'était
ouais,
la grande école.
Ouais, c'est la grande école, le grand lycée. C'est pas évident de s'adapter, mais en 2-3 ans, c'était bon. Quoi.
Et alors, tu étais plutôt un bosseur, un rêveur?
Super bosseur. Ouais.
C'est pas vrai.
Près du radiateur, super bosseur.
Près de la fenêtre aussi.
Comme il faisait froid, j'étais obligé de près.
Ouais, exactement. Bah, j'étais aussi un peu comme ça. Je rêvais aussi quand je regardais les feuilles tomber d'un marronnier ou des trucs comme ça, tu vois. Et j'écoutais pas toujours ce que disait l'instituteur avec sa blouse grise. Ouais, ouais. Alors, tu jouais déjà du tennis ce temps-là?
Ouais, je jouais au tennis au Maroc parce que mon père jouait au tennis, donc on allait au club de tennis.
Et là-bas, c'était sur terre battue, alors ?
Terre battue. Tout à fait, voilà.
Et ton père était un bon joueur ?
Ouais, un bon joueur, surtout un très bon joueur de double.
Ah,
il venait de la pelote basque, il avait joué.
C'est un peu les mêmes gestes, non ?
Ouais,
c'est
voilà.
Un peu les mêmes gestes.
Au Maroc, il y avait, dans tous les clubs de tennis, il y avait un fronton. Parce qu'il y avait beaucoup de gens d'origine basque.
D'accord.
Donc, voilà.
Et donc, tu t'es adapté au tennis, tu avais envie de jouer. Ouais, tu as commencé à jouer où à Strasbourg alors?
À la SS et au Laune.
Ah, et au Laune. SS et au Laune. Et tu avais un prof là-bas qui t'apprenait à jouer?
J'avais Jean-Paul Lotte.
Ah, bah, tu avais ce qu'il y avait de mieux.
Mal,
hein.
C'est pas mal.
Ah, bah, Jean-Paul, c'est un commentateur de France Télé voilà, que je connais bien.
Il était jeune prof. Et puis Philippe Carlier.
Ouais. Voilà, et je crois que le prof de tennis qui t'a appris à jouer, il habitait pas loin du Laune, il habitait juste à côté. Il me disait que le matin, ce n'était pas le réveil qui le réveillait, mais c'était la musicalité, la balle, ping, bang, tu vois. C'est comme ça qu'il se réveillait le matin.
Ah, c'est pas mal.
Pas mal. Et alors, tu étais accro au tennis, tu étais un bon joueur.
Bah, à l'époque, c'est l'époque où tes parents te laissaient le mercredi matin jusqu'au mercredi soir au club de tennis, et le samedi toute la journée, quoi. On traînait, on jouait sur le mur. On jouait toute la journée.
Et les raquettes étaient totalement différentes d'aujourd'hui.
Ah bah c'était des raquettes en bois.
Là, il y avait du vrai boyau dessus.
Ah là, c'est bois et boyau. Ouais.
Bois et boyau, ouais. Et alors aujourd'hui, par exemple, on met quasiment plus de boyau sur les raquettes de tennis. C'est trop cher, non?
Bah c'est la disparition du boyau, c'est un problème économique. Hein. Un synthétique, c'est 20 fois moins coûteux. Donc,
et ça dure plus longtemps, voilà, peut-être, sinon
ça dure un peu plus longtemps. La qualité est moindre, hein, parce que le boyau, c'est le top.
Tu penses? Mais, ouais, c'est vraiment
oui,
mieux.
Non, c'est le top. En élasticité, en réactivité, c'est le top. Mais le problème économique est énorme. Quoi.
Mais tu ne peux pas jouer sous la pluie, par exemple, avec un,
alors,
avec
la
un boyau.
Pluie. Alors, on mettait du vernis.
Ah, je me souviens d'un truc dans ton atelier, là, que vous étiez à côté du marché-gare, à un moment
BD.
Et vous aviez dans une pièce, comme ça, je ne sais plus où c'est, une chaise où il y avait 50 000 couches
avec
de...
Avec des couches de couleurs.
De couleurs de vernis.
C'était une œuvre d'art.
Tu l'as gardée?
Je crois qu'on l'a encore.
Ah, ça, tu l'as mis au grenier, sans doute. Ouais. Ça, c'est une pièce de collecte, quoi. Ouais. C'est vraiment beau, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, tu penses que sur le circuit, les gens jouent encore avec...
Alors, il y a
boyau.
quelques joueurs de haut niveau qui jouent encore avec le boyau pour les montants et le synthétique pour les travers.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
Ouais. Un mixte.
Voilà. On fait un mixte. Ouais. Et alors, ça, c'est bien, ça? Ça te paraît bien, ça?
S'ils le font, c'est que c'est efficace.
C'est efficace. Et c'est les pros qui jouent avec ça, j'imagine.
Bon, il y a quelques amateurs qui jouent aussi avec ça. C'est pas totalement mort, mais bon, c'est 1% du marché. Quoi.
Seulement 1% du marché. Ouais. Le reste, c'est que du synthétique.
C'est
quoi.
Pour ça qu'on a fermé notre usine il y a une vingtaine, 25 ans. Quoi.
Déjà ouais. Mais après, tu as rebondi sur autre chose. Raconte-moi un petit peu cette belle découverte avec Ionex. Bah, parce que ça ne devait pas être facile au début, hein, je pense.
Bah, comment on fabriquait du boyau, on vendait ce boyau à des magasins de sport. Bah, mon père a rajouté à ce business des marques et donc il a rencontré sur des foires de sport la marque Ionex, et ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on distribue Ionex.
Ça devait pas être facile au début d'avoir un contact comme ça avec les Japonais, parce que les Japonais sont quand même... C'est quand même des gens qui sont soucieux de voir si tu distribues bien. Comment sont les Japonais? Raconte-moi, tu les connais bien maintenant, les
Alors,
Japonais.
Alors, ils sont très soucieux, ils sont très stricts, mais ils sont fidèles.
Fidèles, non.
Parce que quand on va à des réunions, il y a des distributeurs de Ionex dans certains pays du monde, c'est 40 ans, 50 ans de distribution. Donc, ils ne changent pas du jour au lendemain leur distributeur. Parce que c'est des gens... Si tu es correct avec eux, il n'y a pas de problème.
Et tout de suite, au début, ils ont fait confiance en vous, à ton père, à toi,
voilà,
et à tes frangins.
Voilà. Et on a tout de suite fait un développement assez fort. Bien sûr, dans le tennis, puisqu'on est du monde du tennis, mais aussi dans le badminton. Parce que
tu as le bad aussi. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui est plus connu, le bad ou le tennis?
Ionex, c'est le numéro 1 dans le badminton, et c'est le numéro 4 dans le tennis. Donc, ils n'ont pas la même position. Mais depuis maintenant 4-5 ans, il y a une très très forte progression de Ionex dans le tennis.
Comment ça se fait? Pour quelles raisons? Ils ont changé de stratégie, d'image?
Alors les produits ont toujours été très bons. On a eu des joueurs exceptionnels. On a eu Navratilova, on a eu Higgins, on a eu Rios, on a eu...
Vous êtes allé Suisse, Stan?
On a eu Wawrinka. Wawrinka Roland-Garros, vainqueur à Roland-Garros.
Il l'a gagné, ouais, voilà, je me souviens, j'y étais. Ouais,
avec un short que tu aurais pu mettre, d'ailleurs.
Je crois que tu m'en avais offert un, je crois. Je crois que tu m'en avais offert un, je l'ai toujours.
Ouais, ouais. Un short magnifique, de toutes les couleurs.
Ouais, je sais, je l'ai aussi.
Qui va très bien avec ta casquette.
Ouais, exactement.
Voilà. Et la victoire de Wawrinka, ça a été une renaissance, quoi, on va dire.
C'est lui qui t'a lancé cette...
Non, Yonex existait toujours, déjà, mais depuis la victoire de Wawrinka, ils ont relooké leurs produits. Les produits sont toujours très, très bons.
Et là, pourquoi ils sont bons? Qu'est-ce qui est différent d'une autre raquette?
C'est fabriqué au Japon.
Ça veut dire que ce n'est pas en Chine, fait n'importe comment.
Tous les autres produits que tu retrouves sur le marché sont fabriqués ou à Taïwan ou en Chine.
C'est vrai que je joue aussi depuis longtemps avec une Yonex.
Voilà. Le Made in Japan, alors c'est plus cher, hein, mais c'est une qualité exceptionnelle.
Et après, tu fournis aussi l'équipement, parce que vous ne faites pas que des raquettes et du bad, vous faites aussi des pompes, des t-shirts.
On fait tout, le textile, balles, cordage.
Les balles, ça ne fait pas longtemps qu'il y a qu'on joue avec Yonex sur les circuits.
Yonex a acheté la plus grande usine de balles au monde il y a 5 ans maintenant.
Dunlop, c'était quoi?
Non, Dunlop, c'est vraiment une fabrication à part, c'est une très très bonne balle.
Qu'au jour, j'étais au Japon faire un reportage chez Dunlop. Et on a vu comment ils fabriquaient les balles de tennis sur des machines dans un immense, immense atelier où il y avait, je ne sais pas, des centaines d'ouvriers. Et par terre, tu aurais pu déjeuner tellement tout était propre, nickel.
Dunlop, ils ont une maîtrise du caoutchouc.
Du caoutchouc, Et donc, ce n'est pas ça que vous avez racheté.
Yonex a racheté une autre usine qui fabrique pour Yonex et pour d'autres
marques. Et alors, ces balles sont des balles pour la terre battue, comme sur le green set?
Tu as des balles pour la terre battue et pour d'autres surfaces, il n'y a pas de problème.
Ok, écoute, on écoute un petit peu une petite musiquette. Tu connais bien Rodolphe. Rodolphe, c'est un ami à toi.
Urgère. Non, c'est pas un ami, mais donc je fais du bénévolat au festival donc
de Sainte-Marie-aux-Mines, c'est ça.
Je le suis depuis longtemps.
Et puis après, il était à Kléber, je crois. Moi, je me souviens de. Il était prof de philo, je me souviens bien. Écoute, mets-nous un petit peu de Rodolphe Burger, si tu veux bien, mon cher ami Thomas. C'est vraiment une musique un peu particulière, Rodolphe Burger. Il chante à demi-mot, comme ça, avec de la belle musique derrière.
Ça fait bien voyager, moi.
Exactement. Ouais. Alors, il a aussi écrit des chansons pour Françoise Hardy. Il a fait plein de choses. Il a fait des musiques de films. Ouais. Il jouait aussi avec Stéphane Eicher.
Exactement.
Tu l'as aussi rencontré, Stéphane Eicher, à Sainte-Marie-aux-Mines?
Pas à Sainte-Marie-aux-Mines. Je l'ai déjà vu deux fois, mais je me souviens.
Mais il était avec Bachoum, il était à Sainte-Marie-aux-Mines.
Oui, tout à fait. Higelin
aussi, ouais. Et puis, c'était des beaux concerts là-bas, à Sainte-Marie-aux-Mines. Ouais. Et t'as gardé en contact un peu, tu me disais, tu le vois de temps en temps, le Burger aussi, tu le vois de temps en temps à Colmar?
Je le vois pendant le festival.
Pendant le festival uniquement, ouais. Et alors, parle-moi un petit peu de cette nouvelle gamme qui a rajeuni de Yonex. Yonex fait des raquettes totalement différentes aujourd'hui, avec d'autres couleurs, un peu... C'est quoi la matière avec laquelle
c'est du graphite.
Du graphite, tout simplement. C'est un peu comme les cannes à pêche, les cannes à pêche.
Exactement. Les clubs de golf, les cannes à pêche, c'est du graphite.
Ouais. Yonex fait aussi du golf. Yonex, ils sont aussi dans le golf.
Ouais.
Mais toi, tu distribues pas le golf, que le tennis.
Et le badminton.
Et le bad, oui. Alors, tu distribues où? Pas qu'en France. Tu as d'autres pays où tu distribues?
On distribue en France, en Espagne et au Portugal.
Ah ouais, c'est pas mal quand même, dis donc.
Tout le sud de l'Europe, enfin pas l'Italie, mais tout le sud de l'Europe.
Et donc, tout ce qu'on va en France, qu'on va voir Roland Garros, c'est toi qui l'as distribué. C'est toi qui distribues. Et au Maroc, c'est non, par exemple, excuse-moi, mais tu vas des fois au Portugal aussi pour
Non, en Espagne, mais au Portugal, j'y vais pas beaucoup.
Et tu fais quoi là-bas alors en Espagne?
Bah, on a un bureau à Barcelone et on a une structure de commerciale qui distribue.
Ouais. C'est quand même un beau parcours, hein, tout ce que vous avez fait depuis les internationaux de tennis à Haute-Pierre.
Voilà,
tu avais démarré, c'est là qu'on s'est connus en fait, un peu avant.
Ouais, ouais.
Et là déjà, vous étiez sponsor.
On était sponsor des IS depuis très longtemps. Ouais.
Toujours aujourd'hui
Encore aujourd'hui, oui. Ouais,
tu y étais là il y a quelques jours au tournoi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et pareil, avec, c'était notre invité, Denis Negelen, que tu connais bien aussi.
Oui, Denis, oui, bien
Denis,
sûr.
Denis, tu l'as connu à Mulhouse. Un peu beau garçon quand il jouait comme ça sur les cours de tennis.
Très beau garçon. Et il jouait mieux que moi, hein, ça je te le dis.
Bah oui, il était professionnel, il était pro. Hein.
Ouais, très.
Et c'est vrai qu'il était venu là nous raconter un peu les IS, nous raconter un petit peu son parcours. Et c'était aussi quelqu'un de très très intéressant, ouais, et de très sympa. Hein.
Ouais.
Voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez une grande marge de progression avec Yonex.
Oui, où... tout à fait. Donc en badminton, on est leader et le badminton a énormément évolué en France. Quand on a démarré, il y a une vingtaine d'années, il y avait 5 000, 6 000 licenciés. Aujourd'hui, on n'est pas loin de la barre des 200 000 licenciés en badminton.
Waouh, c'est énorme.
C'est une grosse progression.
Énorme.
Donc le badminton est un gros sport. Et c'est aussi le premier sport scolaire.
Ah,
donc on
ouais.
vend beaucoup dans le milieu scolaire.
D'accord.
Et le tennis, on a végété pendant une vingtaine d'années, mais là, depuis 4-5 ans...
Ça explose, quoi. Ouais. Et vous êtes content.
Très content.
Toi et tes frangins, il y a aussi Rémi qui bosse avec toi, non?
Il est retraité.
Il est retraité.
Ouais.
Et ta sœur, non?
Mais moi aussi, je suis retraité.
Oui, je sais, oui, mais t'es toujours là, quoi.
Ouais, ouais,
t'es président d'honneur.
Ouais, voilà.
Et maintenant, c'est ton neveu qui a repris.
Antoine,
je crois. Ouais, c'est le fils de Rémi.
Voilà.
Ah, c'est ça. Et alors, ça se passe bien avec Antoine?
Ah oui, ça se passe
il
bien.
Est, il est aussi sportif.
Il est bon. Moi, le vieux, j'apporte la sagesse et lui,
le dynamisme. Voilà. La patate, quoi.
Voilà,
il donne des bonnes piqûres.
Ouais.
C'est bien. Et dimanche, en fait, il y a la finale, là, pendant qu'on discute. Demain, dimanche ou de la semaine où tu vas passer à l'antenne, il y aura la finale de Roland-Garros. Tu penses que c'est des Yonex? C'est des gens qui, des joueuses ou des joueurs qui ont vos raquettes.
Alors, sur terre battue, on a beaucoup de joueurs qui sont très bons sur des surfaces rapides. Sur terre battue, l'espoir de Yonex masculin, c'est Rude, Casper Rude.
Ah oui, ouais, je connais,
Norvégien.
Oui. Ouais, c'est un mec qui joue bien aussi.
Qui joue très
bien. Il est
bien.
Dans le top 10, non
ouais,
Il est dans
ouais,
le top 10.
Top 10, et il est très bon sur terre battue. On a un joueur qui s'appelle Shelton, un Américain qui est très fort, mais il est plus fort sur surface rapide. Donc je pense qu'à Roland-Garros, c'est compliqué pour gagner. Et chez les filles, on a un panel de joueuses très impressionnant. Donc là, bien sûr qu'on a une chance de gagner Roland-Garros.
Et les filles cognent de la même manière que les garçons. Hein.
Ouais,
c'est
ça
incroyable, ça joue fort.
Très fort.
Et c'est aussi parce que le matériel a changé.
Ouais,
tu penses que les raquettes de tennis, quand on va Borg jouer au McEnroe aujourd'hui,
on
a envie de rire quoi, quand on les voit jouer.
Bien sûr, le physique des joueurs, l'entraînement, tout ça, c'est des Formule 1 aujourd'hui, les joueurs de haut niveau. Et le matériel a accentué, bien sûr, la puissance.
Ouais. Il y a quand même quelque chose qui doit vous faire peut-être un peu d'ombre, c'est le paddle qui vient à grands pas. Et le paddle, ça joue beaucoup quand même, non?
Alors, le paddle progresse en France, mais ce n'est pas encore un sport... énorme, mais à la limite c'est une activité qui se développe beaucoup dans les clubs de tennis et qui permet aux clubs de tennis de se redynamiser. Si tu as du tennis et du padel dans un club, eh ben, ça ramène du monde.
Ça ramène des sous aussi.
Ouais, des sous et une convivialité. Et des joueurs vont jouer au tennis et au padel. Donc, je ne pense pas que ce soit totalement en concurrence.
Ah ouais, vraiment. Et vous distribuez aussi du matos de padel?
Alors, on a distribué pendant plusieurs années la marque Nox, qui est une très belle marque espagnole, mais là, on a arrêté. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de padel dans notre...
Et alors, tu es toujours aussi fan de tennis? Tu peux te lever la nuit pour regarder un match en Australie, par exemple, où ça t'a passé un peu?
Les grands chelems, oui.
Les grands chelems, tu regardes?
Oui, oui.
Moi, je suis un peu pareil, je peux me lever.
Mais je suis plus foot que football.
Oui, je sais.
Que
bah, on va en parler un peu. Tu as fait du foot, là, justement. Tu connais le gardien, là.
Ouais.
Il t'a reconnu parce que tu étais. C'est un gardien de but, je crois.
De l'AS Médor.
Oui, c'est ça. Et alors, tu préférais le foot qu'au tennis?
Si tu veux, mes parents jouent au tennis, donc on m'a amené au club de tennis, mais c'était toujours le foot qui primait. Ouais.
Et tu jouais où en Alsace alors?
J'ai joué aux jeunes, j'ai fait 4-5 clubs. Ouais.
Et tu jouais quel numéro ? Tu étais où ? Tu étais un passeur ?
J'étais un milieu de terrain.
Un milieu de terrain. Voilà. Et encore aujourd'hui, tu joues au foot ?
Non, j'ai arrêté il y a 5 ans maintenant.
Ah, d'accord. Waouh ! Pourquoi ? Mais
j'ai fait 42 ans de football, je crois.
42 ans de foot. Et Yonex n'est pas du tout dans le foot.
Non, pas du tout.
Vous ne faites pas des chaussures, des pompes.
Ils sont dans le foot au Japon, ils ont des équipes professionnelles, pas dans le reste du monde.
Et au Japon, donc, tu es allé là-bas pour signer le contrat Yonex avec
Tous les deux ans, on a une réunion au Japon. Ouais, je suis allé souvent au Japon.
Tu passes à la moulinette pour voir si vous allez encore signer un contrat. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu es à la retraite. Tu fais quoi ? Tu t'occupes comment ?
Bah, je suis encore président de la société, donc je vais 3 matinées par semaine.
Vas au bureau ?
Ouais, au bureau. Et puis, le reste du temps, je m'occupe.
Tu t'occupes, voilà. Et tu fais quoi, par exemple
Je fais du bénévolat aussi. Je fais au Secours Populaire. Voilà.
Ah ouais ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu distribues des aliments ?
Ouais.
Des denrées, des choses comme ça. Et ça te prend du temps, ça ? C'est
sympa
de faire
ça. C'est une après-midi par semaine.
Il y a quand même beaucoup de pauvreté. Hein, vrai. C'est bien d'avoir des actions comme ça. Et tu seras à l'antenne, tu regarderas la finale de Roland-Garros, féminine comme masculine.
Ouais, exactement.
Tu y seras ?
Je vais y aller une journée, je pense.
Tu vas y une journée ? Ouais. Bah, on se voyait là-bas de temps en temps aussi, à Roland-Garros.
Ouais. C'était un autre Roland-Garros, à l'époque c'était beaucoup plus petit. Il y avait tous les stands des fabricants, aujourd'hui...
T'en avais aussi un là-bas,
je
me souviens.
Oui, on avait un stand. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, oui.
Aujourd'hui, c'est des boutiques de produits dérivés...
Du parfum, qui n'ont rien à voir avec le tennis.
Il faut faire beaucoup d'argent.
Ah ouais, j'imagine, ouais. Ouais, mais Roland-Garros, c'est une grosse fabrique, une grosse machine.
C'est une machine,
ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'y ai passé presque... J'ai fait 10 tournois, je crois, pendant 10 années de suite, j'étais là-bas. C'était d'excellents souvenirs, des beaux souvenirs avec Gérard Holtz, avec qui j'ai travaillé. Et comment tu vois la progression de Yonex dans les prochains mois, dans les prochaines années ?
Bah, écoute, la volonté des dirigeants de Yonex, c'est de devenir le numéro 1. Alors, en badminton, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de concurrent ? Vous n'avez pas de concurrent ?
Il y a de la concurrence, mais vraiment, ils écrasent tout. Ils écrasent la concurrence. En tennis, ils ont une volonté d'être numéro 1. Maintenant,
ils le deviendront, tu penses ?
Ils peuvent, parce que c'est, si tu veux, on ne se rend pas compte, mais Yonex, dans les pays asiatiques, c'est une énorme société qui fait autour d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Waouh, énorme !
Énorme. Parce que les gens ne se rendent pas de compte, mais le badminton, c'est un plus gros marché que le tennis.
Ah ouais, ok.
En Chine, il y a 40 millions de joueurs de badminton. Et
incroyable,
quand tu es leader, ça fait beaucoup de business. Et donc, avec la puissance qu'ils ont dans le badminton, ils peuvent devenir numéro 1 en tennis.
Ouais. Génial. Bah, écoute, je te remercie, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu jusqu'à chez nous, jusqu'à la radio.
Merci,
ça m'a fait plaisir de te voir ici et que tu ne changes pas. Il reste comme ça et continue de faire du sport de promouvoir cette belle marque.
Merci à
toi. À bientôt, à la semaine prochaine, chers amis.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée.